Chapitre 6. Surprise. Quelqu'un gratta à la porte un peu avant l'aube, forçant les deux amies à se lever. Elles ouvrirent à Setsuko, une novice rablée plus petite que Moiraine et très timide. La chère Dame Irline, annonça-t-elle, avait ordonné que toutes les acceptées se réunissent dans les écuries ouest avant la tierce matine, prêtes à reprendre leur mission, bien entendu. À la lueur de la lampe qu'elle tenait, les yeux de Setsuko brillaient d'envie. Pourtant, elle savait que son séjour à la tour toucherait bientôt à sa fin, avec à la clé un retour tant espéré en Arafel. Setsuko avait parlé ouvertement de s'enfuir, jusqu'à ce qu'une visite dans le bureau de Meréane lui ait appris la discrétion, sinon la sagesse. Elle n'obtiendrait jamais le châle, et cela la vexait sûrement, mais elle devrait néanmoins rester jusqu'à ce qu'on lui ait appris à canaliser sans mettre en danger sa vie et celle des autres. Malgré cela, elle continuait à rêver d'évasion. Certaines novices s'échappaient, et il arrivait que des acceptées les imitent, sans doute parce qu'elles ne supportaient pas le destin qui les attendait. Mais on finissait toujours par les reprendre, et leur retour à Tarvalon n'avait jamais rien d'agréable, c'était peu de le dire. Bref, il valait mieux pour tout le monde que de telles situations ne se produisent pas. Dans d'autres circonstances, malgré sa fatigue, Moiraine se serait fendue de quelques mots de réconfort ou d'incitation à la prudence. Mais la prime matine venait de sonner, la deuxième ne tarderait pas, une demi-heure, et pour prendre un petit déjeuner et atteindre les écuries avant la tierce, il ne faudrait pas traîner. En bâillant, Moiraine étreignit Xuan, puis se précipita dans la galerie obscure qui semblait hantée par les fantômes de la nuit. Setsuko passa à la porte suivante avec l'ambition de réveiller Sheriam, mais si elle continuait à gratter comme ça, elle risquait d'attendre longtemps, car Sheriam n'aurait pas entendu un tremblement de terre. 6 ou 7 autres novices, toutes munies d'une lampe, frappaient à d'autres portes. Arrivée devant la sienne, Moiraine congédia d'un geste la grande blonde qui devait s'étonner de ne pas entendre de réponse. Avant de s'éclipser, Lysandre se fendit d'une révérence dégoulinante de soumission. Elle avait une chance de passer l'épreuve qui ferait d'elle une acceptée, à condition qu'on puisse la débarrasser de sa tendance à la servilité. Ce serait sans doute le cas, à vrai dire. Quand la tour trouvait un défaut à une de ses étudiantes, elle y remédiait d'une façon ou d'une autre, et par tous les moyens. Moiraine se lava et s'habilla à la hâte, se brossa les dents avec du sel, les rinça à l'eau de seltz et se peigna très sommairement les cheveux. Malgré sa rapidité, quand elle sortit de sa chambre, son sac à l'épaule, les ténèbres se dissipaient déjà. Équipée de pied en cap, Xuan l'attendait en conversant avec la rousse Sheriam, visiblement tout excitée, tandis que d'autres acceptés couraient déjà vers le réfectoire.
« Moiraine, Sheriam dit que les Aiel battent en retraite pour de bon. »
annonça Xuan, en ajustant le sac qui pendait à son épaule.
« Il serait déjà à plusieurs lieues à l'est du fleuve. »
Sheriam acquiesça, puis se mit elle aussi en chemin pour le réfectoire. Mais Moiraine la retint par la manche.
« Tu es sûr de ce que tu dis ?»
Moiraine regretta aussitôt sa brutalité. Moins fatiguée, elle aurait fait montre de plus de diplomatie, car on n'obtenait jamais rien des gens en les rudoyant. Par bonheur, Sheriam n'avait pas le tempérament de feu que laissait présager la couleur de ses cheveux et de ses yeux. 2 pierres précieuses vertes légèrement inclinées qui brillaient comme des phares. Se contentant de soupirer, elle tourna la tête vers la porte qui conduisait hors de la galerie, comme si elle avait hâte de la franchir.
« Je l'ai déjà entendu de la bouche d'un garde qui le tenait d'un soldat du Chienard. Un messager, pour être précise. Plus tard, Séraphel, Rima et Janet m'ont affirmé la même chose. Une sœur peut se tromper, mais pas 3. C'est une certitude. »
Plutôt agréable, lorsqu'il s'agissait de passer une soirée entre amis, Sheriam avait le défaut d'énoncer les vérités les plus banales, comme si elle prêchait devant des fidèles.
« Pourquoi souriez-vous comme des idiotes ? »
demanda-t-elle soudain aux deux amis.
« Je n'avais pas conscience de sourire. »
s'excusa Xuan en reprenant son sérieux. Elle avait toujours l'air surexcitée, comme si elle bouillait d'envie de partir au pas de course.
« Une occasion de se balader hors de la ville n'est-elle pas une bonne raison de sourire ?»
lança Moiraine. Si les Aiel étaient vraiment partis, Xuan et elle pourraient peut-être convaincre Stellar de les escorter jusqu'au camp les plus proches du Pic du Dragon. Sans trop savoir quand elle avait adhéré à la cause de son amie, Moiraine en était désormais une fière combattante. Toutes les deux, elles trouveraient le dragon réincarné. D'une manière ou d'une autre, elles y arriveraient. Sourire ? Si elle ne s'était pas retenue, elle aurait ri aux éclats et dansé la gigue.
« Parfois, vous êtes très bizarre, »
marmonna Sheriam.
« Moi, après une journée en selle, la seule idée de m'asseoir me fait frémir. Bon, si vous voulez rester ici à bavarder, c'est votre affaire. Pour ma part, je rêve d'un petit déjeuner. »
Sheriam fit mine de s'éclipser, mais elle se pétrifia et eut un petit cri de surprise. Meréane venait d'entrer dans la galerie encore plongée dans la pénombre.
Son châle brodé de motifs végétaux posé sur les épaules, les longues franges bleues frôlant le sol, elle avançait sous le regard écarquillé de toutes les acceptées présentes. À l'intérieur de la tour, les Aes Sedai portaient rarement leur châle, sauf dans les plus grandes occasions. L'irruption de la maîtresse des novices ainsi parée signifiait que quelqu'un allait avoir de gros ennuis, ou qu'une ultime épreuve était imminente. Plusieurs acceptées, espérant être l'heureuse élue, restèrent ostensiblement là où elles étaient. Sans doute parce qu'elles n'avaient pas la conscience tranquille, d'autres s'éloignèrent aussi vite que c'était possible, sans se mettre à courir. Une erreur grossière, elles auraient dû le savoir. Tout ce qu'elles obtinrent ainsi, une fois que Méréane eut remarqué leur manège, fut la certitude que la maîtresse des novices enquêterait sur elles, pour découvrir ce qui les mettait mal à l'aise. Au Caerienne, une paysanne tout juste bonne à surveiller des oies se serait montrée plus futée. Sans accorder un regard à ses futures victimes, Méréane continua d'avancer. Sur son chemin, les filles qui croyaient que le grand jour était venu pour elles ne dissimulèrent pas leur déception. Shériam faisait partie des acceptés que leur conscience n'avait pas poussé à fuir. Elle ne broncha pas quand la maîtresse des novices s'arrêta devant Siouan, Moiraine et elle. Le cœur de Moiraine battit la chamade, et elle dut se forcer à respirer normalement, tandis qu'elle gratifiait Méréane d'une révérence. Siouan avait peut-être raison. En fait, elle avait même sûrement raison. Quand la maîtresse des novices disait qu'une acceptée passerait bientôt l'épreuve, ça se produisait immanquablement moins d'un mois après. Mais elle ne se sentait pas prête. Siouan en tremblait d'excitation, comme on pouvait s'y attendre. Shériam vibrait d'anticipation aussi. Au nom de la lumière, toutes les acceptées se sentaient-elles mieux préparées que Moiraine d'Amodred ?
« Si tu ne te presses pas, mon enfant, tu vas être en retard, »
dit Méréane à Shériam. Le ton coupant de la sœur bleue avait de quoi surprendre. Si curieux que ça paraisse, connaissant sa fonction, elle ne parlait jamais ainsi, même lorsqu'il y avait des punitions à la clé. Et quand elle sermonnait une fille en lui distribuant des coups de badine ou de martinet, voire la détestable savate, elle s'exprimait d'une voix à peine plus autoritaire que d'habitude. Tandis que Shériam s'éloignait, Méréane étudia attentivement Siouan et Moiraine, dont le cœur s'affola encore plus, si c'était possible.
« Lumière, pas maintenant, je t'en prie. C'est trop tôt.
Moiraine, j'ai parlé à la chère d'Amirline, et elle pense, comme moi, que tu dois être bouleversée. Tes camarades devront se débrouiller sans toi aujourd'hui. »
Méréane eut une moue étrange, mais elle se recomposa une expression sereine.
« J'aurais préféré que vous restiez toutes ici, mais les gens se montrent plus dociles avec des initiés de la tour qu'avec des fonctionnaires, même s'ils sont liés à l'ordre. Et si on leur demandait d'assurer le recensement, les sœurs s'en étrangleraient d'indignation. Sur ce point, notre mère a tout à fait raison. »
Méréane avait dû avoir une polémique serrée avec Tamra. Et pour en dire si long devant des acceptés, il fallait qu'elle en soit encore toute remuée. Sa brusquerie inhabituelle s'expliquait à présent. Comprenant qu'elle n'aurait pas à subir l'épreuve sur le champ, Moiraine en conçut un profond soulagement. Cela dit, ce que venait d'annoncer Méréane lui sabordait le moral. Aujourd'hui, Siouan et elle auraient pu œuvrer dans un des camps proches du pic du dragon.
« Méréane, s'il vous plaît, je... »
La sœur bleue brandit un index, sa façon de prévenir qu'il n'était pas judicieux de discuter. Si douce et si compréhensive qu'elle fût, elle ne donnait jamais de second avertissement. Moiraine ravala donc ses objections.
« Tu n'auras pas le temps de broyer du noir, »
reprit la maîtresse des novices. À la façon dont elle ajusta son châle sur ses épaules, elle était agacée, qu'elle le veuille ou non.
L'écriture de certaines filles ne mérite pas le nom de « chieur de mouche ».
Cette fois, c'était sûr. Méréane bouillait intérieurement de colère. En temps normal, quand elle avait une critique à faire, c'était toujours devant les personnes concernées, à l'exclusion de quiconque d'autre.
« La chère d'Amirline pense, comme moi, que tu sauras recopier les listes pratiquement illisibles. Ton écriture est très accessible. Un peu trop enjolivée, mais facile à déchiffrer. »
Moiraine chercha désespérément une réplique pertinente que la sœur ne prendrait pas pour une objection. Hélas, elle ne trouva rien. Comment se sortir de ce piège ?
« C'est une très bonne idée !»
s'exclama Siouan. Moiraine en resta bouche bée. Sa meilleure amie la poignardait dans le dos, et elle en rajoutait même une couche.
« Méréane, elle n'a pas fermé l'œil cette nuit. Pas plus d'une heure en tout cas. Selon moi, elle n'est pas en état de chevaucher. Pour sûr, elle glisserait de sa selle après un quart de lieue. » « Ton soutien me va droit au cœur, Siouan, »
dit sèchement Méréane. Si la maîtresse des novices lui avait parlé sur ce ton, Moiraine en aurait rougi de confusion. Mais Siouan était faite d'un autre bois qu'elle, le genre que rien n'entaillait et qui pouvait tout supporter.
« Bien entendu, la pauvre ne doit pas rester seule. Tu écris bien aussi, n'est-ce pas ? Eh bien, tu l'assisteras. »
Le sourire de Siouan se volatilisa, mais la sœur bleue fit mine de ne pas s'en apercevoir.
« Allons, suivez-moi. » « Et plus vite que ça !» Je ne vais pas passer la journée à m'occuper de vous. »
Glissant devant les deux acceptés comme un signe grassouillet sur l'onde, grassouillet mais pressé, la maîtresse des novices guida les deux amis jusqu'à un petit bureau sans fenêtre, qui devait se trouver à peu près sous les appartements de la chaire d'Amerline. Munie de deux fauteuils à dossier droit, la table de travail richement sculptée proposait toute une collection de plumes, d'encriers, de petits pots de sable pour le séchage et une pile proprement agencée de feuilles de parchemin vierge. Au milieu, dans un désordre épouvantable, gisaient des documents déjà rédigés. Moiraine accrocha sa cape à une patère, posa son sac sur le sol et jeta un regard noir au travail qui l'attendait. À côté d'elle, Siouan semblait encore plus morose. Au moins, il y avait du feu dans la cheminée. Du coup, comparé au couloir, la pièce était agréablement chaude. Et si on songeait à une chevauchée dans la neige, c'était un vrai paradis.
« Dès que vous aurez pris le petit déjeuner, » dit Méréane, « venez ici et mettez-vous au travail. Ce soir, déposez les copies dans l'antichambre du bureau de Tamra. »
« Siouan, »
soupira Moiraine dès que la sœur fut sortie.
« Où es-tu allé chercher que c'était une bonne idée pour nous ?»«
Pour toi, »
rectifia Siouan.
« Eh bien, de cette façon, nous aurons accès à plus de noms.
Et si Tamra nous garde à ce poste, nous les obtiendrons tous. Ainsi, nous serons peut-être les premiers à connaître son nom. Car je doute que deux garçons soient nés sur les pentes du pic du dragon. Mais je pensais que ce serait ton travail, pas le nôtre. »
Elle eut un soupir accablé, puis regarda soudain Moiraine, l'air intrigué.
Pourquoi devrais-tu être bouleversé et broyé du noir ?
Durant la nuit, parler de ses malheurs avait paru déplacé à Moiraine, tant ils étaient anodins face à ceux qui attendaient le monde. Mais là, elle n'eut aucune hésitation à se confier. Avant même qu'elle ait terminé, Siouan la serra dans ses bras pour la consoler. Depuis le début de leur amitié, elles avaient plus souvent pleuré sur l'épaule l'une de l'autre que chercher la consolation auprès de Méréane. De sa vie, Moiraine ne s'était jamais sentie si proche de quelqu'un, et elle n'avait jamais aimé personne autant que Siouan.
« Tu sais que j'ai 6 oncles qui sont de braves hommes, et un 7e qui est mort en prouvant sa valeur. En revanche, tu ignores qu'il y en a 2 autres. Mon père ne laisserait pas ce sale type entrer chez lui, et pourtant, l'un d'eux est son propre frère. En fait, il ne prononcerait pas leur nom à voix haute. Ce sont des voleurs des rues, des brutes et des ivrognes. Quand ils ont bu assez de bière ou d'eau de vie, après avoir détroussé assez d'innocents pour faire la fête, ils sont prêts à taper sur la première personne qui les regarde de travers. » En général, ils s'y mettent à 2 pour rouer leurs victimes de coups de poing, de pied, de tout ce qui leur tombe sous la main. Un jour, ils finiront pendus pour meurtre, si ce n'est pas déjà fait. Et quand ça arrivera, je ne verserai pas une larme. Certaines personnes ne méritent pas d'être pleurées.
Moiraine rendit son étreinte à Siouan.
Tu sais toujours ce qu'il faut dire, toi. Quoi qu'il en soit, je prierai pour mes oncles. Quand ils mourront, je prierai aussi pour ces 2 scélérats. Mais morts ou vifs, je ne perdrai pas mon temps à penser à eux. Si nous allions au réfectoire, la journée sera longue et nous n'aurons même pas une superbe chevauchée pour nous distraire. »
De l'ironie, sans nul doute. Pourtant, Moiraine ne vit aucune malice dans le regard de son ami. Cela dit, Siouan abominait pour de bon les tâches administratives, comme à peu près toute personne sensée, en somme. Le réfectoire des acceptés se trouvait au rez-de-chaussée de la tour. Avec ses murs et son sol blanc, cette grande salle remplie de longues tables munies de bancs faisait un cadre à la fois paisible et reposant. Sauf quand les acceptés, comme ce matin, avalaient leur petit déjeuner à toute vitesse. Après avoir renversé du flan sur sa robe, Shyriam se leva et partit en couinant qu'elle avait le temps de se changer. Toutes les filles se pressaient. Déjà sur le chemin de la sortie, Catherine finissait de manger un gâteau, tout en essuyant les miettes qui tombaient sur le devant de sa robe. Avoir une occasion de quitter la ville ne semblait pas si secondaire que ça, finalement. Siouan prit son temps pour savourer une portion de flocons d'avoine aux pommes cuites, et Moiraine eut un compagnie en buvant une deuxième tasse d'infusion au goût puissant. Un délice quand on y ajoutait une larme de miel. Au fond, la probabilité que le bon nom soit dans les listes à recopier n'était pas très élevée. Lorsque les deux amies furent les dernières assises, une des cuisinières vint se camper devant elle, les poings plaqués sur les hanches. Bien qu'un peu enrobée, Lara était une fort jolie femme. Cela dit, son regard aurait pu faire fondre un rocher. Aucune acceptée n'était assez stupide pour se la mettre à dos. En tout cas après un premier différend. Devant elle, même Siouan filait doux. Du coup, elle se hâta de finir sa portion. Avant que les deux jeunes femmes soient sorties, la terrible Larace appelait déjà à tue-tête les filles de cuisine, transformées en femmes de ménage. Moiraine s'attendait à trouver le travail assommant, et elle ne fut pas déçue. Pourtant, ses pires craintes ne se réalisèrent pas. C'était ennuyeux, certes, mais on devait trouver facilement pire. Les deux amies commencèrent par extraire du fouillis les listes écrites de leurs mains. Puis elles sélectionnèrent celles qui étaient également lisibles. Cette opération réduisit de moitié le tas de feuilles en attente.
À bien y réfléchir, ce n'était pas beaucoup. Toute femme qui arrivait à la tour sans savoir écrire suivait des cours intensifs pendant son noviciat. Celles qui écrivaient mal étaient formées aussi, mais il fallait souvent des années pour corriger ce défaut, quand c'était possible. Pas mal de sœurs, quand elles voulaient être comprises, avaient recours à des scribes. La plupart des listes se révélèrent plus courtes que celles des deux amies. Pourtant, et même en tenant compte des explications de Méréane, le nombre de naissances restait incroyablement élevé. Et pour l'instant, les statistiques concernaient uniquement les camps proches du fleuve. Remarquant que Xuan lisait attentivement chaque feuille avant de la classer dans la bonne pile, Moiraine entreprit de l'imiter. Leur chance de trouver le dragon réincarné dans ces fiches-là était minime, mais il ne fallait pas les négliger. Au fil de ces lectures, la foi de la jeune femme se délita. Beaucoup de fiches étaient désespérément vagues. Que voulait dire « né en vue des murs de Tarvalon » Les murailles de la cité étaient visibles à des lieux à la ronde, et bien entendu à partir des pentes du pic. La description en question concernant un bébé de sexe féminin, une mère originaire du Kaerien et un père natif de Théar, il n'y avait pas vraiment de mal, mais les comptes rendus imprécis abondaient. Une ânerie revenait en particulier très souvent. « Né en vue de la tour blanche ». Par la lumière, la tour se voyait d'aussi loin que le pic du dragon, à peu de choses près. D'autres fiches étaient tristes à pleurer. Une certaine Salia Pomfrey avait donné le jour à un fils juste avant de repartir pour son village, en Andorre, parce que son mari était tombé dès le deuxième jour de combat. Mirelle avait ajouté un commentaire dans son écriture fluide. Les autres femmes du camp ont tenté de la dissuader, mais elle était à moitié folle de chagrin. Puis la lumière veillait sur elle. Triste à pleurer, vraiment. Et tout sentimentalisme oublié, aussi perturbant que les autres comptes rendus inexacts. Il manquait le nom du village, alors que le royaume d'Andorre était ce qu'on trouvait de plus vaste entre la colonne vertébrale du monde et l'océan d'Arit. Comment trouver Salia le cas échéant? Son fils était né du mauvais côté du fleuve, et avec 6 jours d'avance. Mais si la mère du dragon réincarné avait fait comme elle, comment lui mettre la main dessus? Il y avait plusieurs cas similaires, rapportés par des tierces personnes. En procédant à des recoupements, il était possible de réunir assez d'informations sur chacun, mais rien n'était moins sûr. Pourtant, la mission semblait si simple lorsque Tamra en avait parlé. « Que la lumière nous aide », pensa Moiraine, et tant qu'elle y était, qu'elle aide le monde entier. Les deux amis recopièrent un rythme soutenu, unissant parfois leurs efforts pour déchiffrer des lignes qui ressemblaient vraiment à s'y méprendre à des chures de mouches. À midi, elles prirent 1 heure pour aller au réfectoire, où on leur servit de la soupe de lentilles et du pain. Puis elles retournèrent à l'ouvrage. Comme de juste, Elaïda vint les voir, paradant dans une robe encore plus rouge vif que celle de la veille. Faisant le tour de la table, elle regarda par-dessus l'épaule de chacune des deux femmes, comme pour évaluer leur travail. Le châle à frange rouge qu'elle portait était brodé de motifs floraux, des rosiers apparemment, avec des épines très réalistes, ce qui n'avait rien d'étonnant, connaissant la sœur rouge. Sans doute parce qu'elle n'avait rien trouvé à critiquer, Elaïda repartit comme elle était venue. Xuan et Moiraine soupirèrent de soulagement, puis elles continuèrent leur travail. Plus personne ne les dérangea. Lorsque Moiraine eut versé du sable sur sa dernière feuille, avant de la ranger dans la boîte posée sur le parquet entre les deux sièges, l'heure du dîner venait de sonner. Plusieurs garçons étaient nés la veille. L'événement devait en principe avoir lieu après la prédiction de Jitara. Mais aucun ne semblait être celui que cherchaient les deux amis. Après une nuit de très mauvais sommeil, Moiraine n'eut pas besoin des encouragements de Xuan pour retourner dans le petit bureau, au lieu de se joindre aux autres acceptés en route pour les écuries. Certaines couraient déjà moins vite aujourd'hui. Quand on passait sa journée à écrire des noms, le postérieur sur un siège inconfortable, une virée hors de la ville perdait beaucoup de son charme. Moiraine, elle, avait hâte de recommencer à écrire des noms. Après tout, quelqu'un leur avait-il dit de ne plus le faire? Et si elles étaient réveillées, c'était pour avoir entendu les autres faire du boucan, pas parce qu'une novice était venue frapper à leur porte afin de leur indiquer de partir avec les autres. Comme Xuan aimait à le répéter, il était plus simple de s'excuser que de demander une autorisation, même si la tour n'avait pas beaucoup d'indulgence en réserve pour les accepter. Les feuilles de la veille attendaient sur la table de travail, un tas aussi impressionnant que le précédent. Pendant que les deux amis triaient les listes lisibles, deux fonctionnaires entrèrent dans le bureau et se pétrifièrent de surprise. Moiraine identifia une scribe de la tour aux cheveux grisonnants, la flamme de Tarvalon brodée sur la manche de sa tunique sombre, et un jeune clerc bien bâti, qui semblait davantage taillé pour porter une armure que pour jouer les secrétaires dans une redingote grise. Doté de magnifiques yeux marrons, il avait un sourire renversant.
« Quand on me charge d'un travail, » dit la femme, « je déteste découvrir que quelqu'un d'autre est déjà en train de le faire. »
Voyant que son assistant souriait, elle le foudroya du regard.
Si tu veux garder ta place, Martin, tu devras te tenir mieux que ça. Allons, suis-moi.
Son sourire évanoui et les joues roses d'embarras, le jeune homme obéit à sa supérieure hiérarchique. Moiraine regarda Siouan, inquiète, mais son ami continua imperturbablement à trier les feuilles.
« Travaille !» souffla-t-elle. « Si nous avons l'air assez affairés !»
Si des fonctionnaires avaient reçu l'ordre d'accomplir le travail, il y avait peu d'espoir, mais, pulvérisant tout leur record de tri, les deux jeunes femmes étaient en train de recopier des noms, lorsque Tamra en personne entra dans le bureau. Vêtue d'une robe de soie bleue unie, la chair d'Amirline était l'incarnation même de l'impassibilité typique des Aes Sedai. À la voir, nul n'aurait cru qu'elle avait vu mourir une de ses amies deux jours plus tôt, ni qu'elle attendait de connaître le nom du sauveur de l'humanité. Rayonnante de joie mauvaise, l'équivalent du rouge agressif d'Elaïda, la scribe suivait la dirigeante de l'ordre. Le jeune Martan était là aussi, souriant à Moiraine et Siouan dans le dos de son irascible chef. S'il refaisait trop souvent ce coup-là, il risquait pour de bon de perdre sa place. Moiraine se leva d'un bond, si prompte à faire une révérence qu'elle en oublia le porte-plume serré dans sa main. Elle le sentit dans son mouvement, cependant, et grimaça quand une tache noire commença à s'élargir sur le devant de sa robe blanche. Siouan fut tout aussi rapide, mais elle pensa à poser son porte-plume avant de s'incliner bien bas, en soulevant le bas de sa robe.
« Du calme, » pensa Moiraine. « Je dois rester calme. »
Cet exercice mental lui fit le plus grand bien. Tamra étudia intensément les deux jeunes femmes. Quand elle se livrait à cet exercice, même les gens au cuir le plus épais avaient l'impression que son regard pénétrait jusque dans leurs entrailles. Par miracle, Moiraine parvint à ne pas se dandiner nerveusement. À coup sûr, la chair d'Amirline allait deviner leur plan, si on pouvait qualifier ainsi leurs pathétiques intentions.
« Je voulais que vous ayez un jour de libre pour lire ou étudier à votre bon plaisir, ou pour vous préparer à l'épreuve. »
Tamra eut un sourire qui ne rendit pas son regard moins perçant.
« Mon enfant, tu es toujours bouleversé par la mort de tes oncles. J'ai encore fait des cauchemars cette nuit, mère. »
La stricte vérité. Mais ces mauvais rêves concernaient un bébé pleurant dans la neige et un jeune homme sans visage qui, pour le sauver, disloquait de nouveau le monde. Moiraine s'étonna de son propre calme. Elle n'aurait jamais cru être capable de donner à la chair d'Amerline une réponse d'Aes Sedai. Tamra hocha la tête.
« Si tu préfères t'occuper ainsi, tu peux continuer. Quand ce travail de copiste t'ennuiera, laisse un petit mot avec tout ce que tu auras fait, et je m'arrangerai pour qu'on te remplace. »
La chair d'Amirline se détourna, mais elle jeta un regard par-dessus son épaule.
Les taches d'encre sont très résistantes, surtout sur du tissu blanc. Inutile de te rappeler que tu ne peux pas utiliser le pouvoir pour ces choses-là, je suppose.
Sur un dernier sourire, Tamra sortit du bureau, entraînant la scribe avec elle.
Maîtresse Wellyn, ne prenez donc pas les choses si mal. Je suis sûr que vous avez mieux à faire que...
À part les imbéciles, personne ne voulait se mettre à dos les fonctionnaires. Qu'elles soient volontaires ou accidentelles, leurs erreurs faisaient bien trop de dégâts. Dans le couloir, Tamra continua à amadouer la terrible scribe. Moiraine baissa les yeux sur la tâche, qui avait doublé depuis l'incident. En temps normal, pour nettoyer la robe, il aurait fallu la plonger pendant des heures, dans un produit de teinturier qui abîmait les mains et n'offrait aucune garantie de réussite.
« Elle vient de me conseiller d'utiliser le pouvoir, non ?»
Siouan fronça tellement les sourcils qu'ils évoquèrent deux accents circonflexes géants.
« Ne raconte pas n'importe quoi !» J'étais là, et elle n'a rien dit de tel.
Siouan, il y a ce que disent les gens et le sens caché de leurs paroles.
Interpréter les discours des autres était la base du grand jeu. Le sourire de Tamra, son ton et la lueur qui brillait dans ses yeux équivalaient à une permission écrite. S'ouvrant au pouvoir, Moiraine invoqua un flux d'air, d'eau et de terre qu'elle déposa délicatement sur la tâche. Si les acceptés n'avaient pas le droit de recourir au pouvoir pour les corvées quotidiennes, on leur apprenait néanmoins à le faire. Ces restrictions n'existaient pas pour les sœurs, qui voyageaient très souvent sans domestique. La tache noire brilla, comme si elle redevenait humide, puis elle commença à rapetisser, tout en remontant à la surface du tissu. Bientôt, elle fut réduite à un minuscule grain de poussière noire, qui tomba dans la paume de Moiraine.
« Je devrais la garder en souvenir, » dit la jeune femme, en posant son trophée au coin de la table.
Un moyen de ne jamais oublier que Siouan avait raison. Parfois, il était recommandé de violer les règles.
« Et si une sœur était entrée? Tu aurais essayé de la convaincre que tout ça est lié au grand jeu ?»
Moiraine rosit et se coupa de la source authentique.
« Si une sœur était entrée, je lui aurais dit que... Eh bien, que... Tu crois que c'est le moment d'en parler? Il doit y avoir autant de noms qu'hier, et je voudrais en avoir terminé avant le dîner. »
Siouan éclata de rire.
Son ami était si rouge à présent qu'on eût dit le maquillage d'un bouffon. Les deux jeunes femmes travaillaient depuis une heure lorsque Moiraine tomba sur une fiche qui l'incita à marquer une pause. « Née en vue du pic du dragon », disait-elle. Une information parfaitement inutile quand on connaissait Tarvalon et ses environs. Mais Willa Mandeir avait donné le jour à un fils sur la bonne berge du fleuve et le jour même de la prédiction de Jitara. Moiraine copia lentement le texte et, quand elle eut fini, elle ne regarda pas le nom suivant, enregistré par la main peu habile d'Elide, et ne trempa pas non plus sa plume dans l'encrier en vue d'un prochain enregistrement. Au contraire, elle tourna la tête vers ce qui restait de la tache d'encre. Bien sûr, elle était une acceptée, pas une sœur. Mais elle passerait bientôt l'épreuve. Billy Mandeir était peut-être né au bord du fleuve alors que sa mère avait le pic du dragon dans son champ de vision. Dans le compte rendu d'Elide, rien n'indiquait la distance qui séparait le camp de la grande montagne. Le texte précisait seulement « né dans le camp du seigneur Elizar, hors de Tarvalon ». Alors qu'une bonne moitié de la feuille en cours était encore blanche, Moiraine en prit une vierge pour copier les informations relatives à Billy Mandeir. Un nom bien commun, si c'était l'élu. Mais le dragon réincarné, selon toute vraisemblance, serait le fils d'un simple soldat, pas d'un noble. Moiraine s'avisa que Siouan était en train d'écrire dans un carnet assez petit pour tenir dans une des poches de cuir de sa ceinture.
« On doit se préparer à tout », dit la fille de pêcheur, sans cesser de surveiller la porte du coin de l'œil.
Moiraine acquiesça, puis elle poussa la feuille qui ne comportait qu'un nom vers son amie, pour qu'elle puisse consigner ses informations dans le petit carnet. Le lendemain, décida Moiraine, elle aussi aurait tout le matériel requis pour prendre des notes. La journée apporta son lot d'enfants nés en vue du pic du dragon, voire même à côté. Et une bonne partie avait vu le jour sur la berge est du fleuve. Moiraine songea qu'elle aurait dû s'attendre à ce résultat. Dans les environs, la montagne était le point de repère le plus visible. Alors qu'on en était au deuxième jour de recherche seulement, les deux amis ajoutèrent 9 noms dans le carnet de Siouan. À ce rythme-là, combien en aurait-elle collecté à la fin de la mission? La journée fut très prodigue en surprise. Au milieu de la matinée, Jarna Malari entra dans le bureau. Très élégante dans une robe anthracite, la sœur arborait des tempes grisonnantes, qui ajoutaient à son aura d'autorité. Des saphirs brillaient dans sa longue chevelure et autour de son cou, ornés d'un magnifique collier. Son châle sur les épaules, Jarna venait en qualité de représentante de la jagrie au hall de la tour, pas de simple Aes Sedai. En règle générale, les sœurs de cette importance ne remarquaient pas l'existence des acceptées. Pourtant, elle fit signe à Moiraine de la suivre.
« Viens marcher un peu avec moi, mon enfant. »
Une fois dans le couloir, Jarna ne prit pas la parole tout de suite. Moiraine se félicita de ce répit. Par la lumière, que pouvait lui vouloir une représentante? S'il s'était agi de délivrer un message ou d'accomplir une mission, tout aurait déjà été dit. Mais il ne revenait pas aux acceptés d'inciter les sœurs à accélérer le rythme. S'y aventurer aurait été aussi avisé que de vouloir imposer sa volonté à la chair d'Amerline en personne. Le courant d'air qui faisait vaciller la flamme des lampes ne perturba pas Jarna. Qu'attendre d'autre de la part d'une sœur? Mais Moiraine regretta de ne pas avoir songé à prendre son manteau.
« On dit que la mort de tes oncles t'a perturbé, » déclara soudain Jarna. « Eh bien, pour moi, c'est tout à fait compréhensible. »
Moiraine émit un son que l'Aes Sedai, avec un peu de chance, prendrait pour un acquiescement. Si elle n'avait rien contre les réponses d'Aes Sedai, elle préférait éviter de mentir, autant que possible. Jarna étant bien plus grande qu'elle, il lui fallut mobiliser toute sa volonté pour ne pas se dresser sur la pointe des pieds. Bon sang, que lui voulait une représentante?
Hélas, Moiraine, les affaires d'État ne se soucient guère du chagrin des gens. Après la mort de Laman et de ses frères, qui, selon toi, s'assiera bientôt sur le trône du soleil?
Moiraine s'en mêla les pieds et elle se serait étalée de tout son long, si Jarna ne l'avait pas retenue. Une représentante lui demandait son avis sur des questions de politique? Certes, il s'agissait de son pays natal. Mais les sœurs en savaient plus sur les arcanes de n'importe quel pays que ses dirigeants en personne. Et pourtant, Jarna attendait patiemment une réponse.
« Aes Sedai, je n'ai pas encore réfléchi à la succession. »
La stricte vérité.
« Il est possible qu'une autre maison s'empare du pouvoir, mais je ne saurais dire laquelle. » « Oui, c'est une éventualité, »
fit Jarna pensive.
« La maison d'Amodred avait déjà mauvaise réputation, et Laman n'a rien fait pour arranger les choses. »
Sentant qu'elle fronçait les sourcils, Moiraine se corrigea, espérant que l'Aes Sedai ne se serait aperçu de rien. Cela dit, c'était exact. Dans sa génération, son père avait été le seul, les deux sexes confondus, à ne pas avoir un sombre et maussade caractère. Les générations antérieures n'avaient pas été bien meilleures, et même très souvent pires. Au fil du temps, les mauvaises actions des dames Audred avaient fini par entacher leur nom. Mais même si c'était vrai, Moiraine n'aimait pas qu'une personne étrangère à la famille le clame sur tous les toits.
« Taringale, ton demi-frère, est disqualifié
à cause de son mariage avec la reine d'Andorre.
Une loi ridicule, si tu veux mon avis, mais pour la changer, il devrait porter la couronne. Hélas, pour porter la couronne, il faudrait qu'il change la loi avant. Et tes sœurs aînées, sont-elles mal considérées? Le défaut semble avoir épargné ta génération, d'après ce qu'on m'a dit.
Elles sont bien considérées, répondit Moiraine,
mais pas taillées pour régner. Anvaer s'intéresse exclusivement aux chevaux et à la fauconnerie.
Et personne n'aurait voulu d'une reine si colérique. À côté, Moiraine aurait passé pour un parangon d'équanimité. Mais les détails de ce genre, elle les gardait pour Siouan.
Si Inloan montait sur le trône, les affaires du royaume passeraient loin après ses enfants, avec qui elle adore jouer.
En réalité, Inloan jouait avec ses enfants pour oublier les affaires du royaume. Têtue comme une mule, c'était une excellente maman, certes, mais pas un des esprits les plus brillants de la cour, pour rester indulgente. Un déficit d'intelligence combiné à de l'entêtement. Voilà qui n'augurait rien de bon chez une éventuelle tête couronnée.
Jarna Sedai, même au sein de la maison d'Amodred, personne ne soutiendra ces deux candidates au trône.
Laes Sedai sonda longuement le regard de Moiraine. Pensant à ce qu'avait dit Meilin au sujet de la télépathie, la jeune femme subit cet examen avec tout ce qu'elle pouvait invoquer de patience et d'ouverture d'esprit apparente, en espérant que Meilin n'ait pas trouvé un moyen de passer outre les trois serments.
« Je vois, » finit par dire Jarna. « Tu peux retourner à tes occupations, mon enfant. »
Bien entendu, dès que Moiraine fut revenue dans le bureau, Siouan lui posa la question inévitable.
« Que te voulait-elle ? Je ne suis pas sûr de le savoir, » répondit Moiraine en reprenant sa plume.
La première fois qu'elle mentait à son amie, parce que la vérité la terrifiait. Avant que les deux jeunes femmes abandonnent le bureau pour aller déposer leur travail dans l'antichambre de celui de Tamra, six autres représentantes vinrent proposer une petite promenade à Moiraine. Une pour chaque Aja, et toutes avec les mêmes questions. Belle comme le jour, mais le regard assez dur pour faire blêmir la jeune acceptée, Sutama Rat n'y était pas allée par quatre chemins. Jouant avec les franges rouges de son châle, elle avait froidement lâché.
« Tu n'as jamais songé à devenir reine de Kairien ?»
À la suite de cette conversation, Moiraine ajouta un cauchemar à sa courte liste. Après avoir vu le bébé crier dans la neige, puis regarder le jeune homme sans visage disloquer le monde, elle s'imaginait assise sur le trône du soleil, un châle d'Aes Sedai sur les épaules. Dehors, la populace mettait à sac la capitale. Depuis plus de 1000 ans, aucune Aes Sedai n'avait porté une couronne. Avant, les rares reines qui avaient avoué être également des sœurs avaient très mal fini. Mais si le hall de la tour avait choisi cette voie pour elle, il ne serait pas question d'en prendre une autre. Sauf si elle fuyait la tour juste après avoir reçu le châle, et restait à l'écart du Kairien jusqu'à ce que la succession soit réglée. Cette nuit-là, Moiraine passa le plus clair de son temps à prier pour que son épreuve finale arrive le plus tôt possible. Même le lendemain, s'il le fallait. Bien sûr, elle n'était pas prête, mais ça ne comptait pas, car il fallait qu'elle échappe à un piège mortel.